Bonne journée à vous, bonjour à tous.
Mes chers compatriotes, les efforts d'avril d'une part et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays. Nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.
On a tous retenu mi-mai, mais on vient de l'entendre. Hein. En réalité, la promesse, c'est entre le 15 mai et la fin juin, rebâtir un calendrier de réouverture progressive. Attention aux nuances, mais quand même, ça ressemble à un horizon, un été libéré. Le chef de l'État allume la lumière au bout du tunnel. Ce risque, il l'a déjà pris. Au premier confinement, en mars, il y a un an, on croyait qu'en mai, ce serait terminé. Au deuxième confinement, en novembre, on espérait que le 20 janvier, les restaurants, on pourrait y retourner. Et même il y a un mois, la perspective, c'était le 15 avril, tenir encore 4 à 6 semaines. Troisième confinement, donc, l'économie va se refermer. Le rebond de 6% de croissance en 2021, ça paraît inatteignable à présent. À Bercy, le ministre l'a dit, la prévision va être revue. Mais on devrait tomber beaucoup moins bas qu'il y a un an. Hein. Parce que l'industrie, le bâtiment vont continuer. Parce que la liste des commerces essentiels s'est allongée. Et puis parce que la mesure coup de poing, la fermeture des écoles, elle est quand même atténuée par les 2 semaines de vacances qui, de toute façon, préexistaient. Bon, tout ça, c'est si la vaccination fonctionne, si le virus ne déjoue pas à nouveau tous les calendriers. Pour la France, pour l'Europe, il y a urgence parce qu'en Chine, on l'a dit, c'est déjà reparti. Et aux États-Unis, la sortie, c'est quand? Eh ben, c'est maintenant.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Maguéco avec la réalisatrice Juliette Gou, avec l'attaché de production Valentin Pérez. Et ce matin, à la technique, Gilles Gaillard nous accompagne. La vaccination, notre horizon, il en sera question avec l'invité du MAG ce samedi. Son entreprise est un des opérateurs de la campagne de vaccination. Interview du fondateur de Doctolib, Stanislas Nioxcható, vers 9h45. Toujours au chapitre santé, se soigner pendant la crise, la téléconsultation est en pleine ébullition. C'est une pratique, et donc un marché, qui décolle. Vous entendrez le reportage de Caroline Pommès. Chapitre organisation, vie privée, vie professionnelle, plus que jamais. Mais nous avons besoin de Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Et bonjour Alexandra.
Alors la vie au boulot, elle se complique. Et donc vous avez plein de questions de parents ce matin?
Et oui, avec les écoles fermées, les vacances, le télétravail, le chômage partiel, ça fait beaucoup à assimiler d'un coup pour les parents qui travaillent.
Bon, vous allez nous processer tout ça, puis on va essayer de comprendre. On va vous suivre. Rendez-vous juste avant 10h. Mais tout de suite, bien sûr, c'est le débat avec Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra. On va essayer d'allumer la lumière au bout du tunnel. Ça va pas être facile,
de
mais...
processer le débat.
En processant le débat, ouais.
Mais oui, ce matin, j'en fais pas mal, hein, quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Allumez le feu, Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Et donc, nous allons voir ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la vaccination, la reprise, mais aussi le nouveau plan Biden, le numéro 2, donc ça s'appelle Build Back Better, qui va encore plus faire chauffer le moteur, plus de dépenses, plus de dettes, plus d'impôts. Est-ce que Joe Biden, pour le plus grand bonheur de Christian Chavagneux, est en train de changer les règles du jeu? Est-ce que ça doit faire réfléchir l'Europe?
10 mars 2021.
Joe Biden soumet au vote du Congrès son plan massif de relance de 1 900 milliards de dollars, soit 15% du PIB américain.
Ce plan de relance, 1 900 milliards de dollars, il y a des chèques dans ça très directs qui vont arriver aux Américains en début de semaine prochaine déjà.
Democrats call the nearly $2 trillion economic relief bill one of the most transformative pieces of legislation in a generation.
Le pari de Biden, il est double, c'est que en injectant beaucoup de liquidités dans l'économie américaine, elle va repartir.
Marie-Cécile Nave.
En luttant contre la pauvreté, on peut faire repartir la machine.
Directrice de recherche à l'IRIS.
Le but qui est de réduire de 50% la pauvreté infantile concerne aussi certaines catégories de la population qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques de la Covid, notamment les femmes.
31 mars.
3 000 milliards de dollars pour accélérer la transition énergétique et moderniser les infrastructures vieillissantes des États-Unis. Joe Biden détaille aujourd'hui l'acte 2 de son programme de relance.
A far-reaching rebuild of roads,
bridges, power grids, and other projects.
Des routes, des voies ferrées, des aéroports construits au milieu du siècle dernier qui accumulent les pannes et les accidents.
Pour Joe Biden, c'est un plan dont on parlera encore dans 50 ans.
On entend le chiffre de 3 000 milliards de dollars. On dit c'est énorme, c'est effectivement en Europe. Pas mal de voix s'élèvent pour dire qu'il faut absolument imiter les États-Unis. Quelle garantie avons-nous que ces 3 000 milliards seront bien affectés ?
Fergan Aziari, essayiste.
Quelle garantie que Joe Biden saura affecter ces 3 000 milliards aux bons projets, aux bonnes industries ? Qu'est-ce qui finalement nous prouve que ces 3 000 milliards ne seront pas dilapidés dans des projets douteux, à la productivité faible ? C'est l'angle mort finalement de ce plan de relance keynésien.
On est sur un intervalle de 12 à 15 mois sur plus de 4 000 milliards de dollars qui sont mobilisés.
Bertrand Badré.
Quel que soit l'angle par lequel on prend, c'est massif.
Ancien directeur général de la Banque mondiale.
Probablement le plus grand plan de l'histoire de l'humanité de cette taille. Je ne crois pas que dans aucun pays, même en Chine, il y ait eu autant d'effets mobilisés sur une aussi courte période sur une économie.
Et on se perd dans les milliers de milliards de dollars. Il faut nous donner un sens à tout ça, Christian Chavagneux. Qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis ?
Alors, on a eu il y a quelques semaines un premier plan de stimulation budgétaire à court terme, donc de soutien à l'économie. En gros, 1900 milliards pour relancer la machine après la pandémie, notamment avec des chèques aux ménages.
Oui, ça c'était les chèques aux Américains.
Voilà. Mercredi dernier, Joe Biden, il a annoncé un deuxième plan. En gros, 2300 milliards, cette fois de planification publique de moyen terme, sur 8 ans, pour accroître le potentiel de croissance de l'économie américaine. Il y a quoi dedans ? En gros, un quart, c'est pour réparer les infrastructures américaines. On a l'impression que dans un grand pays comme ça, ça marche bien. Je vous donne juste deux exemples. 7,5% des ponts sont considérés comme portant des risques d'accidents graves. Il y a 178 millions de personnes qui passent dessus tous les jours. L'eau potable, la vétusté des réseaux provoquent des fuites qui sont équivalentes à 9000 piscines par jour. Donc un quart, c'est pour réparer ces infrastructures de base. Un quart, c'est pour développer la production stratégique locale, autonome, sur des secteurs clés, les semi-conducteurs, ce qu'on a dans nos smartphones, etc., dans les voitures électriques.
La souveraineté, ouais, encore un enjeu.
La souveraineté, les médicaments. 30%, c'est pour donner une avance aux États-Unis dans le domaine écologique et numérique, et le reste, c'est sur les infrastructures de soins. Il y a un troisième plan qui est en préparation, qui va nous annoncer de 1000 milliards sur les questions d'éducation. Donc évidemment, c'est pas pour des dépenses pour 2021, c'est sur plusieurs années, mais c'est une transformation complète des règles du jeu de la politique économique américaine. Un, sur les montants, une injection de fonds publics équivalente à un quart du PIB, un quart de la richesse. C'est absolument monstrueux. Deux, c'est innovant sur les objectifs économiques, recherche et développement, emploi qualifié, environnement, numérique, santé. Biden veut renforcer les piliers de l'hégémonie américaine face à la Chine. Et enfin, c'est innovant sur les objectifs politiques, faire progresser la classe moyenne et les pauvres pour tuer le populisme aux États-Unis. Mmh. Il y a une dimension rooseveltienne dans ce que fait Biden en ce moment.
Ah, on va y revenir à cette comparaison avec Roosevelt. Laurent Bigorgne, c'est la révolution aux États-Unis ? Christian nous parle de changement des règles du jeu de la politique économique.
Ah, on attendait un Biden assez modéré et conservateur. On a quelqu'un qui arrive avec quelque chose de beaucoup plus ambitieux que ce que les analystes ou les commentateurs envisagent s'agissant de ce candidat. Maintenant,
Sleepy Joe, on disait.
Exactement. Maintenant, revenons effectivement à un certain nombre de voix, j'allais dire, qui commentent ou qui critiquent. D'abord, sur l'ambition énergétique, elle n'est pas si, j'allais dire, irénique ou forte que ce que nous dit Christian, au sens où les outils principaux de lutte pour la baisse des émissions, par exemple la taxe carbone, ou le fait d'aller taxer effectivement à la pompe les consommateurs américains, a totalement été écarté. Et par ailleurs, les investissements qui sont prévus, soit au service de l'innovation, soit sur la recherche sur les énergies propres, sont sans commune mesure, même s'ils restent très importants et plus importants qu'en Europe, mais sans commune mesure par rapport aux annonces de la campagne. Premier point. Deuxième point, Jason Furman, qu'on a entendu ici, a relevé une critique que j'ai trouvée intéressante. Alors lui aussi regrette qu'il n'y ait pas une contribution plus importante de la part des utilisateurs à la pompe, par exemple pour taxer l'essence, mais il nous dit « attention ». On est face à un torrent, Bertrand Badré l'a dit, inédit d'argent fédéral. On sera bientôt au plein emploi, on va y revenir très très vite, on va y arriver. Mais une grande partie de l'investissement public risque de remplacer l'activité privée. Et est-ce qu'on est sûr, et c'est Furman qui le dit, ancien conseiller de Barack Obama, est-ce qu'on est sûr que le public sera toujours meilleur que le privé ? Troisième critique.
C'est de la commande publique, Laurent.
Ah, mais c'est de, en l'occurrence, est-ce qu'on est sûr que...
Et ces entreprises privées qui vont répondre à la commande privée, à la commande publique.
Oui, mais est-ce
qu'on est entreprises publiques.
J'arrive à la troisième critique pour répondre à ce point. Est-ce qu'on est sûr que, et ça c'est une critique plus libérale, je l'admets, est-ce qu'on est sûr que Washington dictant l'innovation et dictant les aires d'innovation va faire les bons choix d'allocation de capital pour l'avenir ? Et ça, il y a un débat évidemment qui est un débat important. Et quatrième et dernier point, qui n'est pas une critique, mais un point de discussion, quelle va être la capacité réelle de Biden à imposer son plan législativement à son camp comme républicain dans les semaines qui viennent?
Ça, c'est une vraie question, parce qu'il y a un débat parlementaire qui va commencer. Au mieux, cet été, on aura peut-être la solution. Et si ça ne marche pas, il faudra passer par la fameuse procédure de réconciliation, comme on dit, où là, les démocrates peuvent l'emporter, mais il faudra qu'il revoie son objectif à la baisse. C'est clair.
Il y a un point qui m'a intéressé, je puisse rebondir là-dessus. C'est qu'on a vu que, dans les jours qui sont passés, la part des Américains qui croient que l'État a plus de choses à faire a augmenté.
Tout à fait.
Il y a eu un sondage intéressant du Pew Research Center qui montre qu'en 2015, il y avait une majorité de personnes qui estimaient que l'État faisait trop de choses. Et aujourd'hui, ils sont au contraire convaincus qu'il faudrait que l'État en fasse plus. Mais dans le même sondage, on nous dit que ceux qui pensent avoir confiance en l'État, ceux qui véritablement ont confiance à l'État, est toujours aussi faible.
Non, mais ça, c'est
donc
ça,
il y a un doute.
Ouais. Mais il y a un doute, mais qui est normal. Le doute va reculer.
C'est quand même, là, il est quand même en train de changer le logiciel américain. On n'est pas en train de découvrir que les Américains ont peu de confiance
mais
en l'État.
Il est même en train de changer le logiciel mondial parce qu'il nous dit quoi? Plus de dépenses, vous l'avez dit Alexandra, plus d'impôts et plus de dettes. Et ça, c'est absolument incroyable. L'Europe nous dit l'inverse. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire nous disent l'inverse. Il faut moins d'impôts, moins de dépenses publiques et moins de dettes. Donc là, il va falloir qu'on fasse un choix. Alors la question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à faire tout
alors,
ça en même temps?
Alors justement, on en a déjà un peu parlé quand on a eu Stéphanie Kelton, la nouvelle théorie monétaire, mais je pense que ça doit dépasser tout ça. Il faut nous expliquer, Laurent, allez-y, comment Biden arrive à financer tout ça? On parle de quoi? Vous avez dit un quart de la richesse?
En tout, un quart de la richesse produite. C'est énorme.
Est-ce qu'on peut comparer à l'Europe d'ailleurs ou à la France, Christian?
Mais non, bon, rien comparé du tout. Rien à voir.
Mais alors, ça n'a rien à voir.
On est à 750 milliards sur un PIB de 2700 milliards, plan de relance. Et un plan, et on n'arrive pas à le mettre en œuvre.
Bon,
On va revenir à la différence de nature sur le financement des deux plans. Le plan de 1900 milliards, qui était le plan de relance, qui va être financé par de l'endettement. Le plan qui vient de nous être annoncé, c'est un plan qui va être financé essentiellement par de la fiscalité. Et je vois bien le plaquage, on entend dans le débat public, y compris sur ces ondes, le plaquage qu'il y a du schéma américain sur le schéma européen. Christian me voit venir avec mes grands... effectivement, le plan qui nous est présenté est un plan qui consiste à dire que dans un pays où il y avait 38% de dépenses publiques avant la crise, on doit en faire plus en période de crise. Je rappelle que le niveau de la dépense publique en France, c'est 56 points de PIB, 18 points d'écart. Donc il n'est pas anormal qu'en période de crise, un président nouvellement élu, comme d'ailleurs d'autres avant lui, cherche à dire, au fond, j'ai des leviers entre les mains, des leviers politiques, et je vais les actionner. Donc moi, je ne suis pas surpris. Et je ne suis pas non plus surpris par le fait qu'il cherche à financer une partie de ce plan à travers une augmentation de l'impôt sur les sociétés, parce que le taux d'impôt sur les sociétés était passé de 35% à la fin du mandat Obama à 21% sous mandat Trump, et il va remonter à 28%. On sera toujours... j'allais dire, à l'étiage ou au niveau le plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale, hormis la période 2017-2020, qui est la période Trump. Donc attention à ne pas plaquer l'idée que des augmentations d'impôts, ce serait la recette pour financer nos plans de relance, parce qu'en réalité, ça tuerait, comme en 2012, ça tuerait toute forme de reprise en Europe.
Christian Chavagneux.
Il y a deux questions là. Comment est-ce que Biden finance son plan? Est-ce qu'il faut, que l'Europe fasse la même chose? Donc, je vais peut-être essayer de commencer d'abord à répondre à la première.
Allez-y, comment est-ce
comment Biden finance son plan? Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec Laurent. À court terme, qui est-ce qui finance le plan de 1900 milliards de relance de l'économie de court terme? C'est à la fois la Réserve fédérale et l'Europe. Il faut pas oublier l'Europe. Pourquoi? Parce que la Réserve fédérale, ses interventions ont été multipliées par 8 depuis 2010, mais on est à peu près équivalent à un tiers du PIB. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne, c'est 60%. Les Japonais, c'est 130%. Donc, c'est nos limites, en tout cas pour les banques, le financement par les banques centrales de ce plan de relance. Il n'y a pas de limite. Mais il y a une deuxième source qui est l'Union Européenne. Pourquoi? Parce que, avec ce plan de relance de court terme, l'économie américaine va avoir une demande interne qui va booster. Les entreprises américaines ne vont pas pouvoir répondre à toute cette demande. Donc, il va y avoir plus d'importations, donc plus de dettes extérieures. Et en ce moment, il y a 40 ans, c'était les Japonais qui finançaient l'économie américaine. Après, c'était les Chinois. Maintenant, c'est nous. Malheureusement, le surplus d'épargne européenne va financer les États-Unis. Et, comme l'a dit Laurent très, très justement, à moyen terme, qui est-ce qui va financer ce fameux plan de 2000 milliards plus les 1000 milliards qu'on attend pour dans 15 jours, 3 semaines? Les impôts sur les entreprises. Il faut le dire. Hausse du taux d'imposition des bénéfices de 21 à 28%. Je rappelle qu'avec Emmanuel Macron, on va passer à 27,5 en France cette année. Donc le taux français sera inférieur au taux américain.
Christian.
Pour les grandes entreprises.
Oui, pour le coup, si on entre dans ce débat, il faut y entrer. La fiscalité française sur les entreprises et la fiscalité européenne de façon générale est bien plus importante qu'aux États-Unis.
Je parle du taux d'IS simplement.
Oui, il y a l'impôt sur les sociétés, mais il y a tous les autres, vous savez.
Mais aux États-Unis, il y a tous les impôts fédéraux aussi. Donc c'est tous les autres aussi. Enfin, si on fait juste la comparaison du taux d'IS, nous on va passer à ça va de 7,5, les États-Unis vont passer, pas demain matin, à 28. Un taux minimum d'imposition aux États-Unis de 15%. Vous pouvez jouer, faire de l'optimisation fiscale, jouer avec toutes les règles fiscales, on va vous taxer minimum à 15%, c'est une révolution. Et puis, un taux minimum d'imposition des bénéfices à l'étranger qui passe de 12,5% à 21%. Il se trouve qu'il y a une négociation internationale en ce moment à l'OCDE pour établir aussi au niveau mondial un taux minimum d'imposition. 12,5%, c'est à peu près le taux qu'affichent les Irlandais. Quand les Américains disent « on passe à 21 » et que Joe Biden, dans son discours de mercredi, dit « mais c'est pas seulement pour les États-Unis, je veux que ça se répande partout dans le monde ». Je pense que le ministre des Finances irlandais, il a déjà changé 4 fois de chemise à cause des sueurs qu'il a dans le dos, parce que si on passe à 21, il va tuer les paradis fiscaux. Or, dans le prochain plan, il y a aussi des impôts sur les riches. Donc là, on a parlé des taxes sur les boîtes. Demain, il y a des impôts sur les riches. Mais tous les impôts que Biden a mis en place ou va mettre en place ne suffiront pas pour les dépenses. Donc il y aura un accroissement de dette. Je vous donne juste un chiffre absolument incroyable. Le CBO, qui est un organisme indépendant qui fait des projections, nous dit que avant le plan de 1900 milliards, avant les 2000 milliards, avant les 1000 milliards qu'on va attendre, la dette américaine allait passer à 200% du PIB.
Christian, vous avez dit énormément de choses. Moi, ce que j'entends là, c'est donc que la Banque Centrale Américaine fait différemment de la Banque Centrale Européenne parce qu'elle n'a pas le même mandat, parce qu'elle ne se fixe pas les mêmes limites.
Non, on fait la même chose, honnêtement. La BCE fait la même chose que la Fed.
On fait des rachats massifs.
On fait pareil.
Et par ailleurs, ces rachats massifs vont continuer parce qu'on veut éviter tout risque d'inflation. Et donc, ces rachats, la Fed s'y est déjà engagée. Oui. Elle va continuer sur 21 et 22, ces rachats massifs.
Mais pas au même niveau. Enfin, mais vous pensez que la même puissance, la BCE se donne la même puissance de feu que la Fed ?
Je pense qu'il y a eu plusieurs interventions de Christine Lagarde ces dernières semaines pour expliquer que, de toute façon, whatever it takes, confère Mario Draghi.
Okay.
La vraie différence de nature, voilà. Pour moi, encore une fois, et je ne veux pas qu'on se perde dans le débat sur la fiscalité, parce que si on veut l'avoir, on se rendra compte que nos points de départ en Europe et aux États-Unis ne sont pas les mêmes. Et qu'en réalité, il y a une convergence, et que c'est une convergence qui va s'établir au milieu. Christian l'a bien dit, on va avoir le même taux d'IS que les Américains d'impôt sur les sociétés. Le point pour moi, là où les Européens sont totalement à côté de la plaque, y compris notre pays, c'est qu'on ne va pas assez vite, Christian l'a dit, on ne va pas assez vite sur les 750 milliards, et on est en train de perdre l'opinion qu'on a déjà perdue sur sa croyance, ou en tout cas sur sa capacité à croire possible la vaccination à l'échelle européenne. Donc, on est en train de perdre totalement l'opinion sur le plan de relance, alors que cette initiative franco-allemande de l'été dernier avait vraiment un sens politique et économique. J'ajoute qu'il y a vraiment un sens à investir dans les infrastructures à un moment où les taux d'intérêt sont très bas. Économiquement, c'est très intelligent. Deuxième point de...
Pardon, Laure, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin comme les États-Unis ? C'est ça pour les États-Unis. Le même raisonnement que vous. Les taux d'intérêt sont bas, vont le rester longtemps, il faut y aller à fond.
Le débat qui a lieu actuellement, effectivement, au niveau européen, c'est de savoir comment mieux prendre en compte le besoin d'investissement du continent européen et de prendre ensemble, sachant qu'il y a de vrais débats, est-ce qu'on fait par le plan d'investissement ? On n'arrive déjà pas à le décaisser. Est-ce qu'on fait via une révision des critères ? Le point qui est pour moi fondamental et sur lequel on est totalement en train de passer à côté, c'est la recherche. On n'a pas mis l'argent sur le vaccin, il n'y a pas assez d'argent dans les plans de relance européens et dans les plans de relance nationaux sur la recherche, et on est en train de prendre une vraie leçon de financement de la recherche par les Américains.
La Chine dépense un budget de malade sur la recherche, sur la 5G, sur les médicaments, surtout. Les États-Unis maintenant viennent de se lancer aussi. Nous, on n'arrive même pas à mettre en œuvre notre 750 milliards qu'on a voté il y a pratiquement un an. On est en train de se faire écrabouiller, on va servir de petit déjeuner aux Chinois et aux États-Unis. Si on ne fait pas ça, plus de dettes, plus d'impôts et plus de dépenses, on va se faire manger.
Pour moi, c'est pas plus de dettes, plus d'impôts, plus de dépenses, c'est chercher la dépense publique vraiment efficace.
Bien sûr,
la recherche.
Bien sûr.
On arrive toujours sur ce débat dépenses publiques de meilleures. On va le faire. Hein. Il faut qu'on. Enfin, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais on va le refaire. Christian Laurent, maintenant je vous emmène, si vous voulez bien, voir l'économie comme elle tourne encore ailleurs. Et ce matin, on franchit le Channel.
I'm delighted to welcome Deliveroo to the main market of the London Stock Exchange today. Since its founding in 2013, CEO Will Shu and his team have created a leader in online food delivery.
A leader in online food delivery, un champion de la livraison de repas qui est introduit en bourse. Ça, c'est le patron du London Stock Exchange qui parle. C'était mercredi dernier. Il est très heureux de l'arrivée de Deliveroo. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Richard, vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Alors, 3 jours plus tard, on revient sur le formidable fiasco, en réalité, de ces premiers pas de Deliveroo en bourse. Pourquoi la livraison de repas, qui est en plein boom, ne fait pas rêver les investisseurs ? Ça, c'est le fond du sujet. En tout cas, la presse britannique, Richard, elle s'amuse. Elle titre maintenant sur, je ne sais pas comment vous prononcez ça, le flopperoo ?
Oui, c'est ça. Le mot existe bien en anglais. Ça veut dire échec total. Généralement, c'est utilisé par les critiques artistiques. Le terme est largement utilisé dans les journaux ici, du Times au Guardian. C'était tentant, hein. Flopperoo, Deliveroo, ça sonne bien. Et puis surtout, ça donne bien une idée de cette entrée en bourse complètement ratée, ce qui fait râler des particuliers sur les réseaux sociaux qui pensaient faire une bonne affaire. Il faut dire que si l'on se fie aux sommes dépensées sur la plateforme ici au Royaume-Uni en 2020, il y avait de quoi être optimiste. Avec les confinements, nous en sommes au 3e en un an, les transactions effectuées sur Deliveroo ont plus que doublé. Mais dans les jours qui précédaient l'entrée en bourse, on sentait bien que ce serait compliqué. Deliveroo espérait être valorisé à hauteur de 10,3 milliards d'euros. Finalement, c'était 8,9, une sacrée révision à la baisse. Et dès l'ouverture de la bourse, l'action a dégringolé de 30%.
Et ça, Richard, ça veut dire que les investisseurs n'y croient pas alors que le marché, il explose, il est en plein boom. Qu'est-ce qui les gêne ?
Ce qui les gêne, c'est que Deliveroo, d'abord, ne gagne pas d'argent. Elle en perd même énormément, 265 millions d'euros de pertes sur un chiffre d'affaires d'1,4 milliard l'année dernière. Et son fonctionnement inquiète les investisseurs parce que les marges qu'elle dégage sont menacées par les coursiers qui n'ont pas de salaire minimum, pas de statut d'employé, qui doivent livrer énormément pour gagner pas beaucoup. Ce modèle-là est attaqué en justice. Et ici, il y a l'exemple récent d'Uber. Après 6 années de bataille devant des tribunaux, la compagnie américaine a fini par requalifier ses 70 000 chauffeurs britanniques. Depuis 2 semaines, ce sont des travailleurs salariés avec un salaire minimum et des congés payés. Dans le détail, c'est loin d'un Eldorado pour eux, mais c'est un premier pas. Et si demain, les livreurs Deliveroo obtiennent la même chose, la société aura encore plus de mal à dégager des bénéfices.
À Londres, Richard Place, merci à vous. Merci aux débatteurs dont n'arrête pas l'écho, Christian Chavagneux et Laurent Bigorne. Christian Laurent, on se donne rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure. Il est 9h34 sur France Inter. Retour en France, dans 10 minutes, le PDG de Doctolib sera notre invité. Question à Stanislas Niox-Château sur ces entreprises du numérique qui deviennent de plus en plus importantes dans le secteur de la santé. Question aussi sur la vaccination et puis sur ce phénomène, la téléconsultation. Un rendez-vous avec un médecin à distance, c'est en train d'entrer dans les mœurs à une vitesse fulgurante. Et peut-être même qu'autour de vous, là, vous voyez des cabines s'installer dans des pharmacies. Alors venez, on sort du studio et on va tester.
Oui, bonjour, c'est moi. Je viens pour joindre un médecin avec la cabine de téléconsultation.
Ouais. Voilà. On va aller voir si vous voulez. C'est très simple.
Alors, j'ai pas besoin de prendre de rendez-vous ?
Non.
Il y a juste, en fait, un compte à créer. Et après, ça se met en place tout seul. Vous avez un rendez-vous dans les 15 minutes qui suivent, suivant la pathologie ou suivant ce que vous voulez avoir.
Ok, donc je me débrouille toute seule.
Exactement. Mais honnêtement, c'est très simple. Hein.
Donc, ça ressemble à un petit sauna. Voilà, donc je m'installe. On dirait une cabine du futur. J'ai une caméra devant moi et j'ai plein de petites, voilà, je sais pas trop ce que c'est, numérotées, et un écran tactile, donc toucher l'écran. Alors là, il faut que je rentre toutes mes informations personnelles. Recherche de docteur en cours. J'ai attendu 2 minutes, voilà, je suis connectée avec le médecin, le docteur Azoulay. Bonjour.
Bonjour madame, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, et je vous vois.
Alors, c'est l'essentiel. Voilà, vous voulez prendre votre tension ? Alors là, il faut introduire le brassard. Comme ça, c'est pas mal.
D'accord, et c'est le médecin qui est en train d'activer l'appareil.
Si vous voulez, l'intérêt, c'est qu'on arrive à faire tous les diagnostics que l'on peut. Il y a un stéthoscope, il y a un otoscope, le thermomètre.
Voilà, et là, l'appareil vient de me prendre la tension. Et là, donc sur la droite, j'ai encore 2 autres appareils. C'est pour faire quoi ?
Le numéro 2, l'oxymètre. Pour les patients un peu essoufflés, le numéro 2, pour moi, est un outil fondamental.
Voilà. Sur la droite, c'est quoi, donc ? Thermomètre.
Il y a un bouton pour allumer.
J'allume.
Ensuite, il y a un bouton où il y a marqué « mesure ». 37,9. Ah bon, vous êtes 37,9 quand même.
Il fait très chaud, il faut le dire, dans cette pièce. Hein, donc, je ne sais pas si, si c'est lié.
C'est important que les gens sachent qu'aujourd'hui, à distance, on peut faire de vrais diagnostics.
Ah, distance. Nous sommes à Andernos-les-Bains, près du bassin d'Arcachon, à la pharmacie de l'Étoile. Ça n'est pas une petite officine, hein. Pour vous donner une idée, il y a 6 caisses. Et donc, depuis le début de l'année, 6 caisses et une cabine de téléconsultation. Pour cette nouvelle pratique, consulter le docteur à distance, soyons clairs, il y a un avant et un après le virus. Avant, ni les médecins, ni les patients ne se précipitaient. En 18 mois, on avait compté 320 000 téléconsultations. Là encore, on pourrait parler de flop. Mais alors après, l'injonction de s'éloigner, voire de se confiner, la volonté de se soigner évidemment, et puis le remboursement à 100% exceptionnel jusqu'à la fin 2022, après l'arrivée du corona. Pour la téléconsultation, c'est plutôt le décollage façon fusée. En 2020, 19 millions d'actes remboursés par la Sécu. Alors, la téléconsultation est-elle installée pour de bon dans notre paysage? Est-ce qu'elle change notre façon de consommer de la santé? On va avoir des réponses. Il faut juste laisser à Caroline Pommès le temps de finir sa consultation. Vous vous souvenez? On l'a laissée dans sa cabine à Andernos avec le docteur Azoulay qui, lui, est à Paris.
Vous avez vu, je peux tout contrôler.
Et les consultations durent combien de temps en moyenne?
En moyenne, c'est entre 7 et 15 minutes.
Vous, vous payez la machine, vous payez Tessan, comment ça se passe?
Ah non, non, moi je suis salarié de Tessan, à des horaires qui me conviennent.
Donc c'est depuis le Covid que vous faites de la téléconsultation alors?
Non, non, déjà j'avais commencé avant. Après l'activité libérale, j'avais cessé pendant quelques temps et puis je suis revenu parce que je suis encore très en forme. Et donc je peux aider. Et j'aide sur toute la France parce que les déserts médicaux, c'est terrible. Samedi, sur 23 consultations, j'ai dû avoir 6 abcès dentaires. Alors, n'oubliez pas que les cabinets dentaires fonctionnent à petit régime.
Et c'est des gens qui peuvent pas aller chez le dentiste alors?
Chez le dentiste, c'est inaccessible. Au mieux, c'est fin mai, fin juin. Enfin, moi, j'ai entendu des choses invraisemblables.
Et comment ça se passe après? Vous allez me faire une ordonnance?
Oui, tu vas arriver dans la cabine.
Fin de consultation. Bon ben voilà, c'est fini, j'ai rien déboursé et j'ai mon ordonnance. Donc là je suis avec le pharmacien 8 et donc je sors de la cabine de téléconsultation et j'ai mon ordonnance. Est-ce que je l'utilise ici, je peux l'utiliser ailleurs?
C'est une ordonnance tout à fait réglementaire et légale.
Ok, donc, mais là je pourrais partir et aller
l'utiliser ailleurs. Là vous pourriez partir l'utiliser ailleurs, mais c'est mieux de l'utiliser chez nous.
Donc, je ne sais pas quels instruments vous allez utiliser. Alors, on a fait le choix aussi de quelque chose de très qualitatif. Il existe des bornes ou des appareillages ou des installations qui sont beaucoup moins coûteuses et moins onéreuses, voire quasiment gratuites.
Et donc cette machine, vous l'avez achetée?
Non, c'est de la location, c'est du leasing en fait, sur 5 ans.
Et vous louez combien?
On est à peu près sur entre une fourchette autour de 500-600 euros par mois.
Voilà un exemple de téléconsultation. Aujourd'hui, on peut même joindre, peut-être pas le sien, mais un médecin ou n'importe quel autre spécialiste avec son téléphone via une application. Cette mise en relation est possible grâce à des sociétés privées. Il en existe plus d'une centaine aujourd'hui qui se rémunèrent de manière différente, comme Teladoc. François Lescure en est le président et il est aussi le représentant des entreprises de télémédecine.
Qui sont les clients des sociétés comme Doctolib et Maya? Les clients de ces sociétés-là, ce sont les médecins. Donc les médecins vont payer une licence d'utilisation du logiciel métier, comme vous, vous payez une licence Word, Excel, Microsoft, voilà. Et après, les médecins qui sont sur ces outils facturent la Sécu normalement. Les plateformes comme Médecins Directs, comme des gens comme Care ou Livy ou MedDoctor, qui ont des médecins directement sur leur plateforme, le client, le payeur, c'est les complémentaires santé. Donc on met à disposition un service de télémédecine, les bénéficiaires de ces complémentaires santé utilisent ce service de télémédecine et à la fin du mois, on envoie une facture d'utilisation aux complémentaires santé et elles prennent en charge à 100% le service pour leurs bénéficiaires. Et puis le troisième modèle, c'est un modèle où le client, c'est le patient final. Et le patient final, dans ce cas-là, il paye sa consultation et éventuellement, il se fait rembourser par la Sécurité sociale, éventuellement à la fin.
Ça représente quoi comme marché?
Si le marché de la télémédecine, c'est 120 millions de consultations, vous faites votre petit calcul, 120 millions fois minimum 30 euros ou 40 euros en moyenne, parce que vous avez aussi des consultations de spécialistes dedans. Bah, ça fait quand même quelques centaines de millions, voire milliards d'euros.
Les entreprises qui tablent donc sur 120 millions de consultations à distance dans le futur, presque trois fois plus que l'année dernière pendant le Covid. Pour la médecine de ville, rien n'existait. Les acteurs privés se sont tout simplement engouffrés dans cette brèche. Hélène de Courtex est consultante en e-santé et fondatrice de la pharmacie digitale.
Pourquoi est-ce que notamment Doctolib, qui déjà avant la crise faisait transiter deux tiers des téléconsultations par sa solution, a remporté autant de succès? Parce qu'ils répondent à un besoin des médecins qui n'était pas comblé par des outils fournis par le secteur public. Alors il y a les grades, donc les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, qui dépendent des ARS, qui ont investi mais des millions dans le développement de plateformes de e-santé en région. On peut leur faire le reproche d'être très hospitalo-centrés. Donc en fait, ils ont comblé un besoin. Alors ils ont été un petit peu visionnaires parce qu'ils l'ont vu avant tout le monde, mais c'est un besoin qui était relativement peu assouvi par le marché. Et la crise sanitaire a fait que ils ont massivement communiqué auprès des libéraux sur leurs solutions qui étaient existantes et qui permettaient également de faire des téléconsultations dans un cadre réglementaire propre à la santé et sécurisé.
Amandine Rolly, économiste de la santé, surveille justement ce marché et la consommation des clients, des patients qui accepteraient de plus en plus de payer pour se soigner, pour ceux qui le peuvent. La téléconsultation a d'ailleurs participé à cette tendance, selon cette maître de conférence à l'université de Reims. Et est-ce qu'on va continuer dans cette voie-là? Tout va se décider à la sortie de la crise sanitaire.
Tout dépendra de ce qui sera retenu à la fin de l'état d'urgence, puisque pour l'instant, nous sommes dans une étape dérogatoire de ce qui est écrit dans l'avenant 6 à la Convention médicale de 2016, qui nous dit que finalement, là, tant qu'on est dans l'état d'urgence, toutes les téléconsultations sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire. Si on retourne dans un cadre d'application strict de l'avenant, le risque majeur est d'élargir en tout cas la porte de la médecine à double vitesse.
Et est-ce que justement il faudrait que le gouvernement régule un peu plus toutes ces plateformes ?
En tout cas qu'il y ait un encadrement d'un maintien d'égalité d'accès aux soins. Alors que jusqu'à présent, tous les patients étaient sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que tout patient devait respecter le parcours de soins coordonnés et attendre qu'une place se libère chez son médecin. Aujourd'hui, on va avoir le patient qui a la capacité financière à se payer une réponse tout de suite maintenant et le patient qui, de façon traditionnelle, va devoir se mettre sur une liste d'attente pour bénéficier du soin.
Est-ce que c'est inquiétant
ou pas ? Oui, c'est inquiétant parce que on a franchi un cap. On a franchi le cap de se dire, finalement, si le patient a les moyens de payer pour un service plus rapide, donnons-lui le droit d'accéder à un service plus rapide. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a une véritable rupture d'égalité entre les patients.
La téléconsultation boostée par la pandémie, c'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Le patron de Doctolib est l'invité du Mag'Écho ce samedi. Bonjour Stanislas Niox-Château.
Bonjour.
Co-fondateur et PDG de Doctolib, vous avez lancé la prise de rendez-vous par Internet, c'était en 2013. La téléconsultation, on vient d'en parler, c'était en 2018. Là, les patients, les médecins étaient réticents, mais avec la pandémie, la pratique a explosé. Aujourd'hui, nous avons une troisième vague. Est-ce qu'à chaque nouveau confinement, la médecine à distance gagne des clients ?
Alors sur la téléconsultation, ça a été dit, la crise a démocratisé la téléconsultation, avec un peu plus de 8 millions de téléconsultations faites sur Doctolib sur les 12 derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'elle est utile. Elle est utile pour suivre les patients à distance, elle est utile pour réduire les inégalités, notamment de territoire et d'accès aux soins. Elle est utile pour les praticiens, qui peuvent maintenant travailler de chez eux et être rémunérés pour l'ensemble de leur acte. Et en plus, elle est simple. Par contre, moi, je crois en une téléconsultation qui est un outil pour des médecins généralistes pour suivre leurs patients. Mmh. Et je ne crois pas en un modèle de plateforme qui rend inégalitaire l'accès aux soins. Et donc, nous, on fournit un outil de téléconsultation à des médecins généralistes de ville qui font de la téléconsultation avec leurs patients, à l'inverse des plateformes qui sont concurrentes en fait de Doctolib et des médecins et qui en gros font des téléconsultations pour eux-mêmes.
De l'importance du modèle économique. Mais quand même, même dans votre modèle économique, je lis que en réalité la téléconsultation, ça permettrait aux médecins de convertir certains des appels des patients en rendez-vous rémunérés. Je lis jusqu'à 30% des appels qui pourraient être convertis. Et ça, c'est quand même une façon de transformer ce qui était gratuit. Oui, bonjour, dites-moi, bah, je vous laisse l'ordonnance à l'accueil, en quelque chose de payant.
En fait, aujourd'hui, les médecins, notamment les médecins généralistes, ils ont 7 à 8 heures de temps administratif par semaine, ils ont des visites à domicile, ils ont de la pression, c'est dur pour eux. Il faut leur fournir des outils nouveaux pour qu'ils développent leur activité.
Oui, mais là, ma question, donc, oui, c'est sur la transformation du gratuit en payant.
Oui, ça transforme un peu du gratuit en payant, mais c'est une faible part de ce qu'est la téléconsultation. Aujourd'hui, la téléconsultation, c'est 15 à 20% de l'activité des médecins. Ça remplacera pas du tout la consultation en présentiel. C'est 15 à 20% de l'activité des médecins pour certaines pathologies, notamment le suivi des maladies chroniques, notamment la relation entre les infirmiers et les médecins. Je pense que c'est un très bon outil pour casser les barrières du cabinet.
Bon, dans cette pandémie, Doctolib, vous jouez aussi un autre rôle. Vous faites partie des 3 opérateurs privés qui ont été retenus pour proposer des créneaux de vaccination dans des centres, dans des pharmacies, dans des cabinets de médecins de ville. Et là, on a quand même énormément de témoignages qui se multiplient, des personnes prioritaires qui disent « mais je n'arrive pas à trouver un créneau, il n'y a pas de place ». Et en effet, quand on va sur le site, voilà, il y a un manque de place criant. Est-ce que vous confirmez ?
Alors en fait, il y a plusieurs éléments que les Français doivent savoir. Un, il y a eu 11 millions de rendez-vous pris sur Doctolib depuis le début de la campagne de vaccination. 2 fois plus de rendez-vous aujourd'hui qu'il y a 15 jours. Et donc, est-ce qu'il y a des millions de rendez-vous qui sont pris ? Oui. Est-ce que les mairies, les départements, les régions, nous, on est mobilisés pour que cette campagne de vaccination soit un succès ? Oui.
Non, mais que l'outil existe, oui.
Le problème, c'est le nombre de doses. Le problème, c'est uniquement le nombre de doses. Il n'y a aucun autre problème aujourd'hui. Le défi de la vaccination logistique, organisationnelle, il est globalement répondu par les acteurs. C'est juste que pas de doses, pas de rendez-vous.
Mais quelle est votre visibilité ? Parce que maintenant, on a tous les plus de 70 ans qui viennent de devenir prioritaires. Dans 15 jours, on nous dit que ça sera tous les plus de 60 ans. Est-ce que aujourd'hui, chez Doctolib, vous dites, oui, on aura les créneaux, on aura les doses, ou bien est-ce qu'on ouvre des places, mais elles n'existent pas ?
Alors moi, je suis incapable de vous répondre. C'est le gouvernement, bien sûr, qui gère l'approvisionnement des doses. Donc nous, on est juste aux côtés des soignants, aux côtés des centres, puisqu'on fournit un logiciel pour les centres pour gérer cette campagne de vaccination. Mais donc, ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'un centre a une dose, il ouvre des créneaux et les rendez-vous sont pris. Et oui, aujourd'hui, il y a une accélération de la campagne. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème de dose pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ? La réponse est oui, et tout le monde le sait. Par contre, est-ce que ça s'accélère ? Est-ce que nous, on est mobilisés et concentrés pour cette accélération ? La réponse est également oui.
L'OMS fustige la lenteur, vous l'avez vu, inacceptable, dit l'OMS, de la vaccination en Europe.
En fait, le seul enjeu, c'est le nombre de doses. Le seul enjeu, c'est le nombre de doses. Et donc, je crois que l'État discute, bien sûr, avec les groupes pharmaceutiques et l'Europe discute avec les groupes pharmaceutiques. Mais encore une fois, c'est pas à moi de répondre. Je suis pas le mieux placé pour répondre à ça.
Mais cependant, et ça sera la dernière question là-dessus, est-ce que vous avez de la visibilité ? Est-ce que vous avez un avis sur le moment où, enfin, la demande ne sera pas supérieure à l'offre, ou l'offre sera supérieure à la demande des patients?
Mais en fait, ce sera probablement jamais le cas, ou alors ce sera le cas au mois de juin-juillet, une fois que la majorité de la population française sera vaccinée, d'où le fait que tous les 15 jours, il y a des nouvelles populations éligibles. Mais j'invite les Français à aller sur Doctolib, à chercher près de chez eux un centre de vaccination. Encore une fois, 400 000 rendez-vous sont pris chaque jour, ce qui est mieux que l'ensemble des pays européens proches de nous.
Stanislas Nyok-Château. Alors parlons du modèle économique. Doctolib, disent certains, c'est une forme d'ubérisation. Et ça donne quoi en termes d'emploi ? Est-ce que vous remplacez, par exemple, des secrétaires médicales avec vos logiciels ?
Ouais, alors nous, on est une entreprise française, une technologie française créée en 2013, qui a créé 1600 emplois sur les 5 dernières années. On recrute une centaine de personnes par mois. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun emploi détruit par Doctolib. Il n'y a aucune secrétaire qui a jamais perdu son travail par Doctolib. C'est même l'inverse, en fait. Elle contribue à créer ce système avec nous. Pourquoi ? C'est quoi le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est que la santé, c'est un bien commun. Et que les patients, ils ont accès difficilement à la santé. Ils comprennent difficilement ce qui se passe. Ils ne peuvent pas gérer leur santé de manière sécurisée en ligne. On essaie d'apporter des services nouveaux pour les patients. On a 45 millions de nos concitoyens qui utilisent Doctolib quotidiennement. Le deuxième problème, c'est que les professionnels de santé, les personnels de santé, ils ont des outils d'un autre temps, ils sont isolés, et donc il faut leur fournir, là aussi, des outils nouveaux pour leur faire gagner du temps, du confort, et développer leur activité. Et ça, C'est un marathon.
Et votre prouesse, c'est que vous êtes arrivé à vous insérer, vous, la start-up, dans un monde très, très bien délimité entre les médecins libéraux et l'hôpital public. Vous avez créé votre place. Vous proposez en effet un service. Tout service a un prix. À la fin, qui est-ce qui paie ce prix? Est-ce que c'est la sécurité sociale?
C'est un très bon point. Pour les patients, c'est 100% gratuit. La sécurité sociale ne paie rien. C'est les professionnels de santé qui payent. C'est les établissements de santé qui payent pour les logiciels qu'on leur fournit. Grâce à nous, ils payent 100 euros par mois et ils gagnent en confort, en qualité de vie et ils développent leur activité.
Et les données de santé que vous recueillez, est-ce que vous les utilisez?
Moi, je crois que c'est votre santé, ce sont vos données. C'est un élément très important. Les patients sont propriétaires de leurs données, ils en ont le contrôle. Elles ne sont utilisées que pour les services qu'on opère et elles sont protégées avec le plus haut niveau de sécurité possible, chiffrées à plusieurs niveaux. Et hébergé dans des hébergeurs agréés de données santé. Là encore, je crois en une innovation française et européenne qui est basée sur des services.
Alors là, il y a un sujet, vous les hébergez dans le cloud d'Amazon. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'avec les lois extraterritoriales des États-Unis qu'on connaît, un jour ces données de santé, elles ne peuvent pas être récupérées par les États-Unis?
C'est très clair, on a plein de mesures qui permettent de protéger efficacement les données. D'ailleurs, le Conseil d'État, il y a quelques semaines, a rendu un avis clair sur le fait qu'on protégeait efficacement les données de nos utilisateurs qui sont hébergées en Allemagne et en France, protégées avec le plus haut niveau de sécurité, chiffrées. D'ailleurs, AWS est un hébergeur agréé de données de santé, validé par l'État lui-même.
Stanislas Nyokchateau, vous êtes donc à la tête de cette licorne française. Une licorne, ça veut dire une entreprise valorisée plus d'un milliard d'euros. C'est une start-up dans le domaine de la santé. Alors, on a beaucoup parlé de ces start-up, des biotech, des chercheurs qui allaient s'exiler. Bon. Vous, en fait, vous nous dites qu'on peut créer une entreprise en France.
Moi, je pense que la France est un des plus beaux pays pour entreprendre. On a des ingénieurs, on a des entrepreneurs, on a des gens qui veulent faire des services utiles. Je pense qu'il y a des secteurs comme l'éducation, l'environnement, la santé, qui mériteraient des innovations de rupture, qui mériteraient des innovations de services. Et donc oui, on peut le faire en France, on peut le faire en Europe. Et on est des nains, on est une toute petite entreprise par rapport aux géants anglo-saxons ou asiatiques.
Votre grand risque, c'est quoi? C'est Google qui s'intéresse à la santé?
Écoutez, moi, oui, c'est sûr qu'on a plein de concurrents qui sont plus gros que nous, plus puissants que nous, en Europe ou à l'étranger. Moi, vous savez, tous les jours, je travaille dur depuis le début de cette crise sanitaire et depuis 2013, en me disant, les patients, ils accèdent difficilement à la santé, on les aide. Les professionnels de santé, ils ont peu de confort de travail, on les aide. Et si on fait ça bien, je suis convaincu que ça va durer dans le temps.
Stanislas Nyokchateau, une dernière question. Il y a un sujet dont vous parlez, sur lequel vous avez un message, c'est le bégaiement. Et vous dites même que ce bégaiement a un lien avec le fait que vous soyez devenu chef d'entreprise.
Vous savez, moi, avant de faire Doctolib, j'ai fait deux choses. Un, j'ai essayé de devenir joueur de tennis. Le parallèle entre sport et entrepreneuriat, je pense qu'il est très fort. Humilité, travail, remise en question. Et deux, j'ai bégayé, je bégaye encore d'ailleurs, vous devez l'entendre. Il y a 15 ans, je pouvais pas aller chercher le pain à la boulangerie. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devant vous. Si vous m'avez dit il y a 15 ans que je serais sur France Inter, je vous aurais probablement pas cru. Et en fait, pourquoi ça m'aide? Parce que ça m'aide à me remettre en question tous les jours, ça m'aide à écouter, ça m'aide à mettre une culture bienveillante dans notre boîte. Et je pense que le bégaiement, ça m'a appris que c'était très important d'être bienveillant, d'être à l'écoute et de travailler dur.
Mais ce que j'ai déjà entendu dans votre bouche, c'est aussi que la raison pour laquelle vous êtes devenu chef d'entreprise, c'est qu'en fait, vous êtes dit, si je vais à un entretien d'embauche, c'est pas sûr que ça se passe bien, autant créer ma boîte.
Exactement. Et d'ailleurs, j'ai déjà été discriminé dans des entretiens d'embauche de grandes entreprises françaises sur le bégaiement en me disant, tu seras pas capable d'aller devant un client, tu seras pas capable de faire une réunion. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise en me disant que je pouvais créer une entreprise bienveillante avec une autre culture. Et d'ailleurs, ce bégaiement m'a permis aussi de connaître un peu le système de santé, et notamment la santé mentale, si vous me permettez.
Allez-y.
C'est d'actualité, deux fois plus de recherches de psychologues et psychiatres sur Doctolib sur les 5 derniers mois. Clairement, énorme enjeu sur la santé mentale en France. Et j'espère que l'État français et les autorités sanitaires vont résoudre ce problème de la santé mentale.
Stanislas Nyokchateau, le PDG de Doctolib, merci d'avoir accepté l'invitation du Magéco.
Merci beaucoup.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Sandrine, on a les écoles qui ferment, plus les vacances, plus le télétravail. Ça fait un sacré combo pour les parents qui doivent s'organiser très vite. Alors évidemment, on a beaucoup de questions. On commence par la première. Sandrine, si mon poste est télétravaillable, est-ce que j'ai droit à l'activité partielle?
Absolument. C'est fini l'ambiguïté du premier confinement. Un salarié qui peut en théorie télétravailler mais qui n'y arrive pas parce qu'il doit s'occuper d'un enfant a droit à l'activité partielle. Mmh. Le gouvernement fait d'ailleurs tout pour ça. Les entreprises entreprises qui paient aujourd'hui un reste à charge de 15% quand elles versent l'indemnité de chômage partiel seront intégralement remboursées. Ça ne leur coûtera plus un centime. Sauf si, bien sûr, elles veulent compenser la perte de salaire de leurs employés qui, eux, continuent de toucher 84% de leur net.
Mais quand même, est-ce qu'un employeur peut refuser cette activité partielle à un salarié qui n'a pas de mode de garde ?
Oui, c'est pas un droit automatique, mais si un salarié écrit un mail noir sur blanc à son chef pour lui dire que ce sera l'enfer de se concentrer avec les enfants dans le salon, sa hiérarchie aura du mal à lui reprocher ensuite de ne pas faire son boulot correctement et d'être trop stressé. Je rappelle que l'employeur doit protéger la santé physique et mentale des salariés.
On a beaucoup d'autres questions, Sandrine, sur une autre angoisse des parents. Savoir si l'employeur peut leur imposer des congés au lieu de les mettre au chômage partiel.
Oui, c'est l'employeur le maître des horloges. Il peut changer les dates, imposer des congés, avec des limites évidemment. Mais depuis l'ordonnance de mars 2020, modifiée en décembre, il a encore plus de latitude. Il peut exiger, avec un seul jour de délai de prévenance, que les salariés prennent jusqu'à 10 jours de RTT. Il peut faire pareil avec 6 jours de congés payés, mais là, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise ou de branche. Les directions ont jusqu'au 30 juin pour appliquer ces mesures exceptionnelles.
Et qu'est-ce qui se passe si un salarié n'a plus de jours de congé à prendre ?
Ce qui est sûr, c'est que l'employeur n'a pas le droit de vous demander de prendre des jours par anticipation sans votre accord. C'est là que l'activité partielle devient intéressante. Il faut vraiment arriver à négocier avec l'entreprise.
Oui. Alors, pour les parents fonctionnaires qui nous écrivent également, qui écoutent On n'arrête pas l'écho, ils nous demandent, est-ce qu'ils devront télétravailler avec des enfants, les parents fonctionnaires ?
Oui, il n'y a pas d'activité partielle dans l'administration, mais dans certains cas, devoir garder un enfant de moins de 16 ans, par exemple, les agents bénéficient de ce qu'on appelle une autorisation spéciale d'absence. Le ministère de la fonction publique travaille sur un nouveau protocole qui sera calé sur celui du privé, ce qui paraît normal. Il n'y a pas d'études sur le sujet, mais les enfants de fonctionnaires ne sont certainement pas plus calmes que ceux des salariés du privé.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.